L'autisme avec Monique Kirouac, c'est un texte que vous avez trouvé dans Québec Science de janvier-février 2026.
En effet, Hélène, et c'est sous la plume de Florence Dujoux. Alors, en septembre dernier, on se rappellera, le secrétaire à la santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., et le président Donald Trump ont affirmé qu'il existait un lien entre la prise de Tylenol pendant la grossesse et l'autisme. Leur déclaration a été, on s'en doute bien, démentie par des centaines de médias, par des associations médicales et par l'Organisation mondiale de la santé. Une méta-analyse publiée en octobre 2025, co-signée par l'épidémiologiste Robert Platt de l'Université McGill, a enfoncé le clou, rien de moins. Non, l'acétaminophène pris pendant la grossesse n'augmente pas le risque pour l'enfant à naître. En fait, après des décennies en fait, de recherche, le constat est clair. Il n'y a pas une cause simple, mais plutôt un faisceau de facteurs qui, dans certaines conditions, peuvent mener aux troubles du spectre autistique que l'on synthétise par TSA.
Alors, on retient, Monique, un faisceau de facteurs.
Oui, qu'est-ce que j'ai dit?
Non, mais vous l'avez dit, mais je trouve que c'est une belle expression.
Oui, tout à fait, un faisceau de facteurs. La majorité de ces facteurs sont génétiques. De fait, des centaines de variations génétiques, soit de petits changements de lettres dans le code ADN, ont été associés à une prédisposition à l'autisme. Parallèlement, de nombreuses études ont montré une corrélation entre les TSA et l'âge avancé des parents à la conception, la prématurité, un déséquilibre hormonal chez la mère, les infections et le diabète pendant la grossesse, ainsi que divers polluants. On peut penser aux pesticides, à la fumée de cigarettes, aux gaz d'échappement, etc. Et bien d'autres, bien sûr, éléments de pollution. Ainsi, les assertions simplistes n'ont pas leur place dans le domaine de l'autisme où tout est une question de nuances et de zones grises. L'article nous invite à voir la définition. Avant de chercher les causes d'un état, encore faut-il pouvoir le caractériser. Le DSM-5, qui est le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux, classe l'autisme dans les troubles neurodéveloppementaux sous la domination de troubles du spectre autistique. Le diagnostic d'autisme ne repose pas sur un biomarqueur. Il est donc impossible de l'établir à partir d'un test biologique comme une prise de sang. C'est le jugement du clinicien qui constitue le seul critère, nous indique Baudouin Forgeau-Darc, qui est pédopsychiatre et chercheur au CHU Sainte-Justine. Malgré tout, le DSM-5 mentionne deux groupes de symptômes caractéristiques qui peuvent être plus ou moins marqués, d'où la notion du spectre de l'autisme. Les difficultés en matière d'interaction sociale et de communication d'une part, et les comportements, les activités et les intérêts restreints ou répétitifs d'autre part. Or, l'autisme se manifeste d'autant de façons qu'il y a de personnes concernées. Quelle est la limite du continuum? Est-il raisonnable d'utiliser un seul diagnostic ou faudrait-il plutôt distinguer des catégories? Il n'y a pas de groupe homogène en psychiatrie, fait valoir encore le docteur Forgeau-Darc. Sébastien Jacquemot, qui lui est généticien au CHU Sainte-Justine, estime qu'attribuer la même étiquette à des personnes très différentes contribue à complexifier la recherche. On n'a qu'à se pencher sur la génétique pour prendre la mesure de cette incroyable diversité. On sait depuis longtemps que les gènes jouent un rôle majeur dans l'autisme. Des scientifiques ont cherché à déterminer dans quelle mesure les différences génétiques entre individus contribuaient à l'apparition de l'autisme. Cette contribution des gènes a été estimée à 80 % par une étude internationale menée en 2019 sur plus de 2 millions de personnes, dont plus de 22 000 avec un diagnostic d'autisme. Ces prédispositions génétiques ne sont cependant pas toutes héritées des parents, puisque certaines mutations surviennent par hasard au cours du développement de l'embryon. Les scientifiques distinguent en fait deux grands scénarios de développement du TSA. Dans le premier, la mutation d'un seul gène suffit à entraîner l'autisme. On parle alors d'autisme monogénique, qui s'accompagne souvent de déficiences intellectuelles. Ce scénario ne concerne toutefois que de 5 à 10 % des personnes autistes. Dans le deuxième scénario, qui représente la majorité des cas, le TSA n'apparaît qu'en présence d'une combinaison de dizaines ou de centaines de variations génétiques qui, individuellement, ne causeraient pas de symptômes. Mais en interagissant, elles augmentent la probabilité de développer un TSA qualifié de polygénique. Bref, vous le constatez, l'architecture génétique de l'autisme est encore mal comprise et surtout très complexe. À preuve, même une variante génétique fortement associée à l'autisme ne donne pas systématiquement lieu au profil autistique. C'est pour cette raison que les scientifiques s'intéressent de plus en plus à l'épigénétique, c'est-à-dire à l'ensemble des mécanismes qui contrôlent l'activation ou l'inhibition des gènes en modifiant de façon réversible la structure de l'ADN sans toutefois en changer le code. Bon, pour simplifier notre compréhension, on nous dit, si on se représente l'ADN comme des notes sur une portée musicale, l'épigénétique correspondrait aux indications de nuances spécifiant de jouer chaque note plus ou moins fort. Si les modificateurs épigénétiques ne se manifestent pas au bon moment, ben le cerveau ne va pas se développer comme prévu. Certains facteurs environnementaux sont aussi susceptibles de moduler les mécanismes épigénétiques. Par exemple, l'âge avancé du père pourrait impacter sur les spermatozoïdes et affecter le développement urologique de sa progéniture. La recherche a aussi permis d'invalider certaines causes de l'autisme dénuées de fondements scientifiques, et on pense à la piste des vaccins, qui a été écartée depuis longtemps. Une méta-analyse de 2014 portant sur 1,25 million d'enfants n'a trouvé aucun lien entre l'autisme et les vaccins, dont celui contre la rougeole, la rubéole et les oreillons. Pour certains spécialistes, par ailleurs, la question des origines de l'autisme occupe trop de place dans la recherche. C'est le cas de Laurent Motron, qui est psychiatre et titulaire de la chaire de recherche en autisme Marcel et Rolande Gosselin de l'Université de Montréal. Monsieur Motron croit plutôt que l'autisme est une possibilité humaine, comme le fait d'être gaucher ou d'avoir un jumeau. Il aimerait que davantage de ressources soient consacrées à la compréhension du fonctionnement des personnes autistes, notamment en ce qui a trait à leur acquisition du langage. Au-delà des mécanismes, la recherche devra aussi continuer à se pencher sur le soutien aux personnes et aux familles concernées. C'est un peu ce que nous disait le professeur Bissonnette il y a quelques semaines, là, dont je vous faisais état. Dans la très grande majorité des cas, le défi est davantage celui de l'inclusion sociale. Le premier besoin des personnes autistes, c'est d'avoir des chances dans la société et d'être acceptées comme elles sont. D'autant que pour plusieurs, l'autisme est plus qu'un simple diagnostic, c'est un élément identitaire important. Je ne sais pas, Hélène, si vous avez regardé l'émission Facteur A.
Absolument. J'ai vu le premier épisode avec Fred Pellerin. J'allais justement vous en parler parce que samedi, ce sera Roxane Bruno, où 25 autistes interviewent une vedette et ça donne une heure de télé absolument merveilleuse.
Je suis tellement d'accord avec vous. On est touché, on est ébranlé, on est impressionné. Et on voit là, mon Dieu, le spectre, n'est-ce pas?
Tout à fait. Dans tout son registre, oui. dans tout son éventail. Et je voulais aussi... Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que ce sont des questions qui vont de c'est quoi ta couleur préférée à « As-tu peur de la mort? »
oui.
Et il n'y a pas de filtre. Et les personnalités qui sont interviewées ont l'air un peu ébranlées, mais elles sont complètement disponibles. Paraît-il que ça prend 3 heures pour enregistrer ces 43 minutes de télévision. Et ça passe le samedi, en passant, là, ça passe le samedi,
oui.
Si vous voulez le regarder à 20 heures sur ICI Télé, mais c'est facilement aussi trouvable sur tout.tv et en reprise sur audio.
Et ça vaut vraiment la peine. Vous allez être touchés.
Vraiment.
Et on a des talents musicaux, des talents de slam qui sont mis à l'avant-scène, des talents de rap.
Oui.
C'était merveilleux.
Merci, Monique, d'en parler. Et c'est important aussi de se rappeler que l'autisme n'est pas une maladie, mais une condition.
Non, c'est un trouble neurodéveloppemental.
Merci.